Le magazine des Nations Unies.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Au titre, l'actualité reste marquée par la reddition et le transfèrement annoncé à La Haye de Bosco Ntaganda, ce chef rebelle du M23 qui s'est rendu à l'ambassade américaine à Kigali. Nous abordons cet événement dans cette édition. La responsabilité première pour combattre les violences sexuelles incombe au gouvernement, déclaration de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles dans les zones de conflit. Taina Bangoura est en visite de travail d'une dizaine de jours en RDC depuis le 20 mars dernier. Elle est l'invitée de ce magazine. Le trafic illicite des migrants prend de l'ampleur en RDC, en particulier en Afrique en général, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Qu'est-ce que ce trafic illicite? Quel est son mode opératoire? Et quelles en sont les conséquences pour les migrants congolais et le pays? Réponse tout à l'heure dans Décryptage avec Jean-Pierre Elali Coco.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Dossier Bosco Ntaganda. Au moment où nous enregistrions cette émission vendredi dernier, les tractations étaient en cours entre la CPI, les autorités rwandaises et américaines pour le transfèrement de Bosco Ntaganda à La Haye. Le chef rebelle du M23 s'est rendu lundi dernier à l'ambassade américaine à Kigali, au Rwanda, après de violents affrontements qui ont opposé les deux ailes de ce mouvement dans la zone de Kibumba, dans la province du Nord Kivu. Retour sur les circonstances de la reddition de ce chef rebelle et les réactions enregistrées, c'est avec Jean-Pierre et Lali Coco.
Tout commence le jeudi 14 mars. Les deux factions du M23, dirigées respectivement par Jean-Marie Roniga, Donkepro Ntangada et Sultani Makenga, s'affrontent dans la région de Kibumba, au Nord Kivu. Le lundi 18 mars, les combats sont d'une extrême violence. Ils obligent 600 rebelles pro-Ntaganda à traverser la frontière et à se réfugier au Rwanda. Bosco Ntaganda perd plusieurs positions stratégiques. Dans la foulée, Ntaganda fuit également les combats et se retrouve à Kigali, la capitale rwandaise. Il se rend à l'ambassade des États-Unis et demande aussitôt son transfèrement à La Haye. Des réactions enregistrées sont toutes unanimes et se félicitent de cette reddition. D'abord, le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende.
Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose parce que c'est le début d'un processus qui marque la fin de l'impunité pour ce seigneur de guerre. Nous nous attendons à ce que le gouvernement américain, que le gouvernement rwandais, parce que l'ambassade se trouve au Rwanda, puisse coopérer à ce que Bosco Ntaganda soit rapidement transféré auprès de la Cour pénale internationale.
La MONUSCO, elle aussi, souhaite que Bosco Ntaganda soit rapidement transféré à La Haye. Écoutez son porte-parole intérimaire, Carlos Arujo.
La MONUSCO espère que le général Bosco Ntaganda puisse être transféré à La Haye dans les plus brefs délais. Le général Bosco est accusé par la Cour pénale internationale de graves crimes de guerre et contre l'humanité. La MONUSCO soutient tous les efforts en cours pour le traduire en justice.
Pour le chargé des communications du bureau de la CPI à Kinshasa, Paul Madidi, la Cour prendrait toutes les mesures nécessaires pour obtenir ces transferts.
La Cour cherche à confirmer donc auprès des autorités compétentes ces informations concernant donc M. Bosco Ntaganda, à l'encontre duquel quand même, je le souligne, il y a deux mandats d'arrêt. Maintenant, si ces informations venaient à être confirmées, nous, la Cour, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour soit remis à la Cour pénale internationale le plus tôt possible.
Pour rappel, Bosco Ntaganda fait l'objet depuis 2006 de deux mandats d'arrêt de la CPI. Le premier pour des crimes contre l'humanité, le deuxième pour des crimes de guerre, notamment l'enrôlement d'enfants soldats et des viols commis dans l'Ituri entre 2002 et 2003.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le trafic illicite des migrants prend de l'ampleur en RDC. Parmi les quelques 6 millions de ressortissants congolais vivant en dehors du pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Aussi, cette organisation des Nations Unies a-t-elle mis en place des stratégies d'appui au gouvernement congolais pour lutter efficacement contre cette pratique proche de la traite d'esclaves? Mais qu'est-ce que le trafic illicite des migrants? Comment opère-t-il et quelles en sont les conséquences? Sefu Papakawaya, administrateur des relations extérieures à l'OIM, répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko dans Décryptage. Suivez.
Kawaya Sefu, bonjour.
Bonjour.
Quand parle-t-on d'un trafic illicite des migrants?
On parle de trafic illicite des migrants au cas où les types de mouvements migratoires qui est observé et concerne donc une sorte d'organisation et qui est réalisée généralement contre versement d'argent, mais qui s'est fait avec l'assentiment des intéressés. Je vais être beaucoup plus explicite en disant ceci. Le trafic illicite des migrants est un type de mouvement migratoire qui est organisé avec l'assentiment des 10 migrants et qui est généralement réalisé contre versement d'argent. C'est-à-dire, on verse de l'argent pour recevoir des services de la part de personnes communément appelées des passeurs.
Donc c'est une organisation illicite aussi. Comment s'opère le trafic de migrants?
Oui, le trafic de migrants s'opère à travers ou par l'entremise des criminels transnationaux. Étant donné ça se passe entre différents pays, étant donné que ça intéresse des gens qui veulent traverser le frontière nationale, et c'est pour cela que les crimes transnationaux ont fait l'objet de toute une convention. La fameuse convention de Palerme de 2000 sur les crimes transnationaux organisés.
Que préconise alors cette convention?
Cette convention préconise de un que les États puissent se préparer afin de faire face à ce type de crime, qu'on puisse mettre hors d'état de nuire les passeurs et autres criminels transnationaux et que les États entrent en collaboration avec les autres États. C'est ce qu'on appelle, en termes usités dans notre domaine des migrations, la coopération internationale dans le domaine des migrations.
Puisqu'on parle du trafic illicite et des migrants, il faut absolument qu'on ait avant tout des migrants.
Oui.
Combien de migrants congolais à l'étranger actuellement? Monsieur Sefou.
Pour répondre à cette question, vous me permettrez de dire d'abord que nous avons un sérieux problème en Afrique en général et au Congo en particulier en ce qui concerne les statistiques.
Donc pas de statistiques pour l'instant.
Il y a des prévisions, il y a des estimations. Je peux vous parler des 6 millions de Congolais à l'étranger, qui est une estimation crédible, qui est faite et qui est admise par certaines études, qui soutiennent que les Congolais sont aujourd'hui à l'étranger à concurrence d'environ 10% de la population globale.
Donc 6 millions, c'est quand même énorme. En Europe, ils doivent être combien, les 6 millions?
Et les Congolais qui se trouvent à l'étranger, au regard des indications qui nous sont fournies actuellement, il est démontré que les Congolais sont plus nombreux de manière sud-sud.
Donc, dans les pays du sud.
Les sud, oui.
C'est-à-dire en Afrique,
En Asie. En Asie, ainsi de suite. Ils sont plus nombreux.
Pourquoi ils sont plus nombreux? Parce que d'habitude, les gens veulent aller en Europe, en Occident, où la vie semble meilleure. Comment expliquer qu'ils soient plus nombreux au sud?
Ils sont plus nombreux au sud pour des raisons évidentes. La première, c'est que le Congo lui-même est un pays aux dimensions continentales, comme vous le savez, avec pratiquement 9 voisins. Vous voyez déjà que les 9 voisins sont des pays de destination des Congolais. Il faut compter aussi sur d'autres pays qui ne sont pas directement voisins, mais qui, par la force des choses, sont des pays de destination des Congolais. J'ai citerai par exemple l'Afrique du Sud. Ensuite, il y a un problème de facilité de voyage. Comme vous le savez,
il y a aussi la proximité géographique.
Puis des affinités, ainsi de suite.
6 millions d'immigrants congolais à l'étranger, combien sont concernés par le trafic illicite?
Vous savez, ce n'est pas du tout aisé de répondre à cette question, puisque le trafic illicite lui-même ne peut pas concerner tous les Congolais qui sont à l'étranger. Il y en a qui sont partis de manière tout à fait régulière.
Est-ce que les sans-papiers peuvent être concernés par cette opération dite des trafics illégaux?
Oui et non. Oui, parce que les sans-papiers, ça peut être des gens qui ont fait l'objet du trafic illicite et qui se trouvent donc à l'étranger et qui se retrouvent sans papier. Tout comme les sans-papiers peuvent concerner des Congolais qui étaient partis de manière tout à fait régulière, qui ont eu un séjour régulier, mais une fois ce séjour est arrivé à terme, ils ne sont pas rentrés au pays, ils sont restés là-bas, ils deviennent donc irréguliers.
Monsieur Sefou, est-ce que lorsqu'on parle des opérations Goulou, c'est-à-dire les trafics réalisés par certaines personnalités, certains musiciens, est-ce que cette opération peut être considérée aussi comme un trafic illicite des migrants?
Ben oui, je vous ai parlé tout à l'heure des passeurs. Et ceux qui pratiquent cette opération dénommée Goulou, que nous appelons aussi Ngoulis, ce sont des passeurs. Les trafics illicites des migrants, c'est tout un processus qui commence d'abord par la falsification des documents officiels ou alors l'utilisation des documents officiels par des personnes qui n'en sont pas détentrices.
Et quelle est l'ampleur de ces trafics illicites dans ces pays ?
Au Congo ?
Oui.
Oui, l'ampleur est grande. Bon. Et je peux vous donner un exemple tout de suite. Vous savez que dernièrement, nous nous trouvions à Brazzaville. Il y a eu un tas de Congolais de Kinshasa qui se sont retrouvés à l'aéroport de Mayamaya au motif qu'ils attendaient un avion qui les amenait en Amérique. Et tout simplement parce qu'il y avait un quidam ici à Kinshasa.
Quidam, c'est quoi pour les communs des mortels ?
Non, il y avait quelqu'un.
Oui.
Et qui se faisait passer pour un facilitateur et qui avait menti en disant aux gens et que lui avait une possibilité de les amener
en Amérique.
En Amérique. Et crois-moi, il n'y a pas longtemps, ils se sont retrouvés à l'aéroport de Mayamaya à Brazzaville et c'est nos collègues de l'OIM à Brazzaville qui s'en sont intéressés pour pouvoir mettre à l'abri ces personnes parce qu'ils allaient être inquiétés.
Par la police ?
Ah oui, ils allaient être inquiétés parce qu'ils étaient à l'aéroport, ils ont fait du boucan parce qu'il n'y avait pas d'avion.
Congolais.
Malphasé. Et qui s'est trouvé ici et qui a fait faire des documents, des faux documents en fait. Et les gens se sont retrouvés à Brazzaville. Bon. Et il a empoché près de 1000 à 1500 dollars par personne.
Avant de passer aux stratégies de lutte contre ces trafics illicites, quelles sont les conséquences du trafic illicite des migrants congolais ?
Oui.
Pour leur pays avant tout ?
Oui.
Pour les migrants eux-mêmes et aussi pour les pays d'accueil ?
Oui, pour eux-mêmes, c'est qu'ils peuvent se retrouver en danger permanent à l'étranger. Un, ils peuvent être exploités de manière éhontée, que du trafic illicite des migrants, nous passons pratiquement dans une situation de traite des êtres humains. Et il peut s'agir de travail forcé, tout comme il peut s'agir d'une exploitation sexuelle, et de complications qui vont jusqu'à la mort.
Et alors, pour les pays d'origine, par exemple la RDC ?
Vous savez que dans un moment comme le moment actuel, où nous parlons développement, où nous parlons reconstruction, le Congo a besoin de ses filles et fils.
Vous avez dit, ce problème a beaucoup d'ampleur dans notre pays.
Oui.
Mais alors, quelles sont les stratégies mises en place par votre organisation, l'OIM, pour limiter tant soit peu le trafic illicite des migrants congolais ?
Oui, vraiment les stratégies, je peux vous dire qu'elles sont tout à fait nombreuses.
Il ne faut pas oublier que l'OIM est ici depuis 2001 et on ne sent pas sur le terrain. Cet effort-là, les stratégies que vous développez.
Oui, l'effort est palpable. La première stratégie, c'est d'abord la sensibilisation. Nous sommes là au-delà d'une trentaine de campagnes de sensibilisation que nous menons à travers le pays. Peut-être que c'est peu, mais je vous dirai que l'OIM a choisi des moments pour mener ces campagnes. Et nous avons pensé à la pérennité de ces campagnes. Nous avons aidé le gouvernement congolais en créant au sein du ministère des Affaires étrangères une cellule que l'on appelle la Maison des Congolais de l'étranger et des migrants. Cette cellule multiplie des activités pour pouvoir sensibiliser les Congolais et les migrants.
Une autre stratégie à part la sensibilisation ?
Oui, à part la sensibilisation, l'OIM a initié, par exemple, des projets. On a identifié, par exemple, que le gros des personnes qui étaient sujettes à une tromperie, à une capacité de nuisance de la part des passeurs, c'était des jeunes filles. Et l'OIM a développé, par exemple, des projets pour octroyer des microcrédits aux jeunes filles. Là, nous travaillons directement en appui aux institutions nationales congolaises.
Monsieur Sefou, je vous remercie.
Je vous remercie également.
Nous ouvrons cette page de brève par des nouvelles de New York, d'où le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a nommé Mary Robinson comme sa nouvelle envoyée spéciale pour la région des Grands Lacs en Afrique. C'était le 18 mars. Présidente de l'Irlande de 1990 à 1997, Mary Robinson devra jouer un rôle clé dans l'appui à la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix par ses signataires, dans la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs d'Afrique. C'est ce qu'a précisé en tout cas la déclaration transmise par le porte-parole de Ban Ki-moon. Du matériel médical informatique est roulant, remis lundi dernier à quelques zones de santé de la province orientale. Un don de l'UNICEF et de l'OMS évalué à 300 000 dollars américains. Il est constitué d'une ambulance, de motos, de vélos, de médicaments et de quelques intrants pour la chaîne de froid. L'UNICEF a aussi annoncé la construction de deux structures de santé, le renforcement des capacités du personnel dans les domaines du programme élargi de vaccination, PEV, et des soins obstétriques et néonataux d'urgence au profit de ces mêmes zones de santé. Toujours en province orientale, deux commissariats de police ont été inaugurés à Kisangani et à Banalia mercredi dernier. Ce projet est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, IM, et l'UNPOL, la police des Nations Unies. Il rentre dans le cadre de la deuxième tranche de financement du programme TAREC.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous l'avions dit dans le sommaire, Zainab Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en matière de violences sexuelles dans les zones de conflit, séjourne du 20 au 30 mars en RDC. C'est sa première visite dans le pays. Elle est venue palper du doigt la réalité sur terrain et prendre plusieurs contacts pour voir comment éradiquer le fléau des violences sexuelles dont sont victimes des milliers de femmes congolaises. Dans un entretien avec Radio Okapi, elle parle entre autres de son pays, la Sierra Leone, qui a connu aussi les affres de la guerre. Elle répond aux questions d'Honorine Singakalala.
Madame Zainab Bangoura, bonjour.
Bonjour.
C'est depuis juin de l'année dernière que vous avez été nommée aux fonctions de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en matière de violences sexuelles dans les zones de conflit. Quels sont les objectifs que vous êtes assignés quand vous avez pris ces fonctions?
Well, my mandate was created by Security Council Resolution 1888.
Mon mandat a été créé par la résolution du Conseil de sécurité 1888 et selon cette résolution, le secrétaire général devrait nommer une représentante spéciale chargée des questions liées à la violence sexuelle. Et donc, c'est ainsi que j'ai été nommée. Et en fait, mes fonctions, je dois coordonner le leadership, un leadership stratégique cohérent contre les violences sexuelles. Puisque je suis la deuxième personne en ligne sur le plan hiérarchique, je devrais, n'est-ce pas, coordonner la réponse et la réaction des Nations Unies, ainsi que la réaction des différents partenaires avec le monde dans la lutte contre les violences sexuelles.
Et comment, madame, compte-t-elle atteindre ses objectifs?
Et donc, en fait, je travaille avec plusieurs acteurs. En fait, dans mon bureau, je travaille en collaboration avec 13 organisations ou agences des Nations Unies, des agences, des fonds, ainsi que des départements des Nations Unies. Et je suis à la tête de ce groupe-là, qui est en fait un groupe à l'échelle mondiale. Je dois travailler avec eux afin d'apporter un avantage comparatif dans la lutte contre les violences sexuelles. Et de la même manière, je travaille avec le département des affaires politiques. Je travaille également avec le département du maintien de la paix. Et donc, je travaille avec d'autres agences des Nations Unies, telles que l'UNICEF, telles que le PNUD. Je travaille également aussi avec l'OMS. Et à travers toutes ces personnes, ainsi que des organisations non gouvernementales, des ONG, et aussi avec les conseillers pour la protection des femmes. Voilà ainsi le cadre qu'a établi les Nations Unies à travers le monde pour pouvoir travailler contre les violences sexuelles.
Madame, vous êtes actuellement en mission en République démocratique du Congo, un pays dont la partie est considérée par une certaine opinion comme étant la capitale mondiale des violences sexuelles. Est-ce que vous avez un agenda particulier, vous avez des actions que vous allez mener pour mettre fin à ce fléau dans ce pays?
En fait, il s'agit ici de ma première visite en RDC. Et je sais qu'il y a un nombre de personnes qui ont déjà été ici, qui ont travaillé en ce qui concerne les violences sexuelles. Et en fait, je sais que la RDC dispose d'un cadre légal. La RDC a les meilleures lois en ce qui concerne la violence sexuelle, mais la RDC est affaiblie par les fléaux tels que les violences sexuelles. Donc en fait, le premier objectif et le premier but de ma visite ici, c'est de prendre connaissance, une connaissance directe de la situation sur le terrain, afin de pouvoir consulter le gouvernement et les différentes parties prenantes pour lutter contre ce fléau-là. Et aussi, il est important de savoir que la violence sexuelle, ce n'est pas un problème des Nations Unies, mais c'est aussi, ça engage aussi la responsabilité du gouvernement. Et donc, je suis venue également pour pouvoir mettre toutes ces parties prenantes là sur la même table pour que nous puissions parler de la lutte contre les violences sexuelles, parce qu'il est aussi important de savoir que le gouvernement de la RDC a la toute première responsabilité pour la protection des civils et la protection des différentes personnes, des femmes et toutes les autres victimes revient au gouvernement de la RDC. Donc les Nations Unies ne peuvent pas imposer des solutions au gouvernement de la RDC. C'est donc pour cela que je suis venue, pour que ensemble puissions regarder avec les parties prenantes, s'asseoir sur la même table et discuter des violences sexuelles. Troisièmement, je suis venue pour pouvoir parler aux différentes parties prenantes, les groupes qui sont impliqués dans la lutte contre les violences sexuelles, ceux qui fournissent les services aux victimes des violences sexuelles. Je suis aussi venue pour pouvoir échanger avec les leaders religieux, avec la police, avec les militaires. La RDC a besoin d'un soutien sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Et les femmes représentent 52% de la population en RDC. Les femmes représentent 70% du secteur informel. Les femmes représentent plus de 80% à la production des aliments et de la nourriture en RDC. Donc il est important de pouvoir adresser et de pouvoir lutter contre ce fléau qui, en majorité, affecte les femmes. Donc c'est pour cela que je suis venue. Je suis venue pour parler avec les enseignants, pour parler avec les journalistes que vous êtes, parce qu'il est important pour les journalistes de comprendre la situation telle qu'elle est. Et il est aussi important pour les journalistes de pouvoir relier l'information à la population.
Madame la représentante spéciale, vous êtes Sierra Léonaise, votre pays a connu aussi la guerre et ses affres. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme expérience en matière de lutte contre les violences sexuelles?
La Sierra Leone aujourd'hui est connue en Afrique de l'Ouest comme l'une des économies les plus puissantes. Le niveau de développement est assez accéléré et je crois qu'elle est le premier maintenant en Afrique de l'Ouest. Nos militaires sont aujourd'hui en Somalie, au Soudan. Il est important de pouvoir aider la femme, de pouvoir soutenir l'autonomisation des femmes. Il est aussi important de pouvoir travailler avec les leaders politiques. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut s'attaquer à ce fléau-là. Mais il est aussi important que la lutte soit soutenue au plus haut niveau du gouvernement. En Sierra Leone, il a fallu qu'on s'y mette. Et moi, j'étais ministre des Affaires étrangères et j'étais aussi très active auparavant dans la société civile. Il a fallu que nous nous y mettons, que nous nous impliquons dans la lutte contre les violences sexuelles. À l'époque, certains de nos autorités, au sein de la police, au sein du ministère de la Défense, au sein de l'armée, étaient des étrangers qui venaient de la Grande-Bretagne, qui venaient du Ghana, qui venaient d'autres pays en Afrique. Donc, il est important pour chaque pays de pouvoir, n'est-ce pas, mettre de côté la fierté nationale et de pouvoir attaquer, d'identifier les problèmes, d'identifier les solutions et de savoir quelles sont les personnes qui vont vous aider à sortir d'une telle situation. Par exemple, en janvier dernier, lors de nos élections, je peux vous dire qu'il y avait des personnes qui étaient au contrôle, qui n'étaient pas des gens de Sierra Leone, qui étaient de l'étranger. Donc, il est important pour chaque pays de pouvoir mettre de côté cette fierté nationale et s'attaquer aux problèmes. Et la chose dont je sais que la RDC a besoin aujourd'hui, c'est les capacités, c'est le renforcement des capacités.
Madame Zainab Bangoura, merci.
Thank you very much. Merci beaucoup.
Direction l'Équateur pour parler du conflit interethnique opposant Ngombe et Mono à Bossobolo. Le conflit entre les deux communautés de ce territoire serait attisé et même provoqué par les acteurs politiques respectifs. C'est en tout cas l'une des conclusions d'une mission mixte MONUSCO, gouvernement provincial et agence humanitaire. Cette mission a duré 15 jours et s'est terminée la semaine dernière. Jean-Michel Liboula Mopolo nous en parle avec plus de détails.
C'est par la ville de Badelité que la délégation a entamé sa mission de 15 jours. Après la réunion de concertation, la délégation s'est rendue successivement à Bossobolo Centre et à Billy avant de regagner le point de départ. Partout où elle est passée, les membres de cette délégation ont écouté et échangé avec les parties en conflit pour connaître les mobiles du conflit qui divise les deux communautés voisines. Et selon les porte-parole, le conflit entre les Ngombe et les Mono a commencé pendant les élections de 2011. Les candidats députés nationaux ont instrumentalisé leurs bases respectives au point de les pousser à la violence et au séparatisme. Le dernier accrochage entre les deux parties au mois de février dernier a fait un mort côté Ngombe, tandis que les Mono ont déploré la perte des biens matériels importants. La commission conjointe a invité les acteurs politiques des deux communautés à s'impliquer pour mettre fin à ces conflits. La délégation espère effectuer une seconde descente sur terrain avant de tenter de sceller la réconciliation entre les fils et les filles du territoire de Bossobolo. Mbandaka, Jean-Michel Liboula Mopolo, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
m'appelle Madame Clarisse Mutembe Bukozi. Je suis mariée et mère d'un garçon de 6 ans. Ma formation, c'est une formation journalistique. J'ai étudié à l'époque à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, où j'ai fait la politique extérieure. Actuellement, je suis associée à la communication au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, où je suis depuis plus de 11 ans maintenant. Mes tâches quotidiennes consistent dans l'élaboration des stratégies de communication pouvant assurer la visibilité de mon agence, pourra aussi assurer l'impact du travail que mon agence fait au niveau des bénéficiaires. Et au quotidien, j'assure aussi tout ce qui est communication interne et externe. Je travaille aussi sur la production d'instruments de communication qui valorisent un peu le résultat de tout ce que nous faisons dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, la gouvernance, le VIH/SIDA, la promotion de la femme. Je suis dans le domaine de la communication depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai travaillé dans beaucoup de quotidiens congolais. Et j'ai aussi travaillé dans ces studios pendant 3 mois. Donc j'ai participé dans la première équipe de la radio Okapi, celle qui a lancé le premier journal en Afrique du Sud. J'aime bien lire, j'aime bien aussi regarder la télévision, j'aime bien les séries familiales. Et si je peux parler de mes projets, mon souci c'est de pouvoir lancer une institution de communication dans laquelle je vais essayer de mettre en pratique toute l'expérience accumulée pendant autant d'années de service. J'aimerais bien communiquer, conseiller les gens à bien communiquer sur les résultats. Voilà un peu mon ambition et comme je suis dans les Nations Unies, ça me plairait aussi de devenir fonctionnaire international. Oui, bien sûr, comme mère et comme toute bonne femme congolaise, je prépare. Et j'aime bien vraiment concocter des plats de chez moi, les pondou, les haricots, les poissons fumés avec les litoumas. Ça, c'est des moments que je passe vraiment, vraiment en famille parce que vous savez, c'est pas facile de combiner les travails, la maison, les foyers. Et c'est pas facile. Les gens, d'abord, c'est dans la personne. Quand on est né avec des faiblesses, on se sous-estime, il se pose un problème des gens. Mais quand en soi, on se considère comme un être humain à part entière, les problèmes des gens ne se posent pas. Moi, depuis toujours, j'ai étudié avec les garçons. Je n'ai jamais été intimidée par les garçons à l'université. J'ai été même candidate chef de promo. Et donc, mes rapports avec mes collègues hommes sont basés sur la compétence, sur le respect, sur la collaboration et sur l'enrichissement mutuel. Disons, j'aime bien la musique chrétienne. J'aime bien écouter une musique douce du groupe Gaël, par exemple. À côté de cela, j'apprécie beaucoup la multiplicité de la musique congolaise qui est très enrichie, qui est moderne et qui exprime autant de messages. Actuellement, par exemple, quand je regarde les Jossards danser, quand je regarde les gens chanter, les Aïko chanter, oui, ça me permet un peu de me trémousser, quoi. Nairobi, Mombasa. Je suis un peu grippée, c'est comme ça que ma voix est rock.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Je m'appelle Aristote Ombaro, je suis étudiant à l'Université Pédagogique Nationale. J'ai suivi dernièrement sur vos antennes un responsable de l'ONIDI RDC dire que c'est en 2011 que le bureau de cette agence a été réouvert. Peut-il nous préciser en quelle année ce bureau avait été fermé et quelles étaient les raisons qui avaient poussé l'ONIDI à la fermeture? Voilà ma question.
Et pour répondre à votre question, nous avons contacté Philippe Francillon, chargé de mission de l'ONUDI.
Aristote, bonjour. Je vous remercie pour votre question et la réponse est la suivante. Le bureau de l'ONUDI en RDC a été fermé en 1994. Après les pillages de 1993, la coopération ONUDI-Zaïr a été suspendue en 1995. Suite au développement des troubles politiques dans le pays. Elle a repris en 2004. Les relations ONUDI-RDC ont été assurées par la représentation de l'ONUDI pour l'Afrique centrale, située à Yaoundé, au Cameroun, et ce jusqu'à la réouverture du bureau à Kinshasa en août 2010. Et je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un seul rendez-vous, le lancement du nouveau système national d'enquête de la contamination des mines en RDC par l'UNMAC. Ce sera le lundi 25 et le mardi 26 mars. Voilà le seul rendez-vous à l'agenda de votre semaine. Fin de ce numéro de MAGUN. Il a été supervisé par Ben Kabamba, coordonné par Jean-Pierre Elali Coco et Honoré Missenga était en reportage. Moi, Mila Kimbouini, j'ai eu le plaisir de vous le présenter avec l'assistance technique d'Alain Goy. Réécoutez cette émission tout à l'heure à 19h03, heure de Kinshasa, même heure à Mwanda dans la province du Bakongo. Et bien sûr, suivez-nous partout dans le monde à partir du site internet www.radiocapi.net. Vos suggestions, vos questions et vos remarques nous intéressent. Deux manières de nous les faire parvenir, d'abord en postant un commentaire sur le site internet en dessous de l'émission, mais aussi en nous appelant au 082 30 76 630. Excellente journée dominicale à tous.